Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Un grand soleil noir tombe sur la vallée.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.
La Société d'Histoire de Firminy et Radio Ondaine vous présentent l'histoire et la petite histoire de Firminy.
Oui, bonjour, Michel Duffy. Nous sommes de retour. Et par cette belle journée d'automne, nous allons changer un petit peu de répertoire aujourd'hui et vous présenter un fait divers qui s'est passé à Firminy.
Et qui s'intitule
Le crime de la Sauzéon.
Voilà. Alors, vous saurez tout à l'heure qui était la Sauzéon, mais présentons d'abord un petit peu l'histoire. Il existe une légende, moitié histoire, qui fait que on a parlé de la Sauzéon, mais c'était très vague, très peu détaillé, et on a eu envie d'en savoir un petit peu plus.
Oui, alors précisons que Jean Vigouroux a carrément mené l'enquête.
Oui, on a mené l'enquête, si on veut, mais à travers...
Il manquait des éléments que tu es allé chercher.
Voilà, on a, grâce à la presse et grâce à un site comme Gallica, qui est excellent et qui permet de fouiller dans la presse nationale depuis sa création, et qui a un système de tri extraordinaire.
Bon. Voilà, donc tu t'es bien transformé en enquêteur.
On ferme la parenthèse.
Allez, on continue.
Bon, eh bien écoutez, il en est des maisons comme des hommes, et certains détestent d'être trop mis sur le devant de la scène, d'autres voudraient rester inaperçus. Ce n'est certainement pas le cas de celle qui s'élève encore aujourd'hui, 22 Place du Marché. En ce tout début du XXe siècle, elle était le siège de l'Académie à Pelouse des farces et attrapes.
Ah, des rigolos, là.
C'est ça. C'est en effet dans cette maison que Jean-Marie Omeyer, plus connu sous son sobriquet,
putain là, oui,
tenait son auberge et peaufinait avec ses complices Jean Médeux, c'est Jean Fort, le grainetier, et Caribeau était le carrier de la carrière des Rases, eh bien, les farces qu'ils jouaient à leurs contemporains. C'est dans la même maison, et comme locataire d'une petite mansarde sous les toits, que la Sauzéon vivait en concubinage notoire avec un maçon du nom d'Antoine Méallier, âgé de 44 ans, natif d'Issingeau. Voilà le cadre de l'histoire.
Alors, cette histoire, elle va commencer 1902,
oui,
fut pour cette maison une date à marquer d'une pierre noire. En effet, le 15 septembre, Jean-Marie Omeyer, donc putain d'âne, fit une dernière farce posthume à ses amis en se réveillant mort. Quant à la Sauzéon, nous revenons à notre sujet, 3 mois plus tard, elle allait se mettre en valeur d'une étrange façon.
Ouais.
La scène du drame n'a guère changé depuis. Le rez-de-chaussée comprend un café et un grand porche attenant qui donne sur une cour intérieure. Un escalier de pierre dessert les étages de la maison et jadis, on pouvait lire en gros caractères sur la façade de cette maison et sous la toiture l'enseigne suivante « Omeyer dit putain d'âne ». Aujourd'hui, la fenêtre mansardée a disparu.
Ouais. Alors, la légende veut que cette histoire se soit passée en plein été. Mais la réalité est têtue. Et les registres d'état civil sont infalsifiables.
Tout à fait.
Donc, les faits se déroulèrent, non pas en plein été, mais le 18 décembre 1902. Donc, nous dirons, non pas par une belle nuit d'été, mais par une froide nuit d'hiver, disons.
Tout à fait. Et les hivers étaient rigoureux.
À cette époque. On n'était pas en période de réchauffement
climatique, on est d'accord.
Par une froide nuit d'hiver, donc, les locataires du 22 de la place du marché reposaient tranquillement. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés par une fumée âcre et épaisse qui, s'insinuant dans les fentes des volets, pénétrait dans les appartements et fit craindre un moment à plusieurs un risque d'incendie. La maison peu à peu s'éveillait, les fenêtres s'ouvraient, et les occupants étaient alors frappés par une odeur épouvantable montant de la courette qui laissait comprendre à chacun qu'il ne s'agissait pas d'un simple feu de bois de santal.
Oui, par exemple, les Garonnères, locataires voisins, et qui décidèrent de descendre au bas de l'immeuble, munis d'une lanterne, bien entendu. Ils s'approchèrent prudemment d'un monticule fumant dont l'odeur pestilentielle leur chatouillait désagréablement les narines. Le mari, à l'aide d'un balai, souleva la partie non embrasée du foyer. Un pied humain apparut. Horreur ! Horreur ! Des cris s'élevèrent, une femme s'évanouit. Les voisins prirent la décision de prévenir la maréchaussée, dont la caserne était à l'époque rue de la Loire, et Brun, le commissaire de police.
Je te signale en passant que le commissaire de police habitait la maison voisine. Donc il fut tout de suite alerté.
Oui, là, il n'était pas bien loin, donc. Hein.
Voilà.
Alors, on est en train de rentrer dans le vif du sujet.
Voilà.
Quelle horreur.
Quelle horreur.
Ah, mais tout de suite, c'est la foule et la Sauzéon qui va être huée, Jean. Hein.
Bien sûr. Alors, tout d'abord, bien sûr, les gendarmes se dirigent vers vers l'auberge de Putain d'Âne, rejoint bientôt par le commissaire de police. En réalité, celui-ci les attend, puisque c'est un voisin. Les gens accourent sur la place, parce que tout se sait, même au lever du jour. On se lève tôt, d'ailleurs. Et
tout le monde a envahi donc les environs de l'auberge.
C'est plein, c'est plein. Quand les gendarmes découvrent cet amas fumant, et avec une canne, ils ôtent tous les chiffons imbibés de pétrole qui recouvrent un corps mutilé et en partie calciné. Il restait à trouver l'auteur de ce crime particulièrement odieux. Ce ne fut pas long. Dans la foule, de plus en plus dense, un nom circulait, des langues se déliaient.
Eh oui, eh oui. En effet, il était fréquent d'entendre de violentes querelles venant de la mansarde habitée par la veuve Sauzéon Aimé Allier, qui travaillait chez Garde, un maçon de la rue Limousin. Mais Allier n'avait pas son pareil pour porter l'oiseau dans les chantiers.
Porter une cage ?
Qu'est-ce qu'il veut ? Non, pas tout à fait. Souviens-toi, tu me fais parler, mais tu le sais. Porter l'oiseau consistait à grimper par une échelle le long d'une façade en portant sur les épaules une auge de bois contenant le mortier.
Je me souviens.
C'est un travail physique, hein ?
Ah oui. À l'époque, alors, donc ça se faisait comme ça.
Il n'y a pas de grue, hein.
Et voilà,
ça c'est clair. Hein. Peut-être était-il renommé pour porter l'oiseau sur les chantiers, mais il était manifeste qu'il ne portait pas la culotte à la maison.
Bah oui, apparemment. Sans hésiter, les gendarmes montèrent donc dans la mansarde de la Sauzéon, où l'occupante nia toute implication dans le meurtre. La vox populi ne douta pas un instant de la culpabilité de la veuve. À la suite d'une querelle d'après-boire, un peu plus violente que d'habitude, des coups avaient été échangés, dont un avait été mortel. La Sauzéon n'avait rien trouvé de mieux pour faire disparaître toute trace de son forfait que de découper le corps de son compagnon et, profitant de l'obscurité de la nuit, de le brûler dans la cour. Mais elle persista à nier et se déclara innocente.
Eh ben dis donc, hein.
Menottée, le visage dissimulé derrière son tablier, elle traversa la place du marché, suivie d'une foule qui grossissait sans cesse, hurlante et injuriant. Cette foule l'accompagna jusqu'à la caserne de la rue de la Loire, et la Sauzéon fut jetée en prison.
Ah oui, alors c'était le tribunal populaire qui s'exprimait, là, hein ?
Ah oui, vox populi.
Aïe, 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 aïe.
C'est ça, le danger.
Eh bien sûr. Alors, le méallier en question étant découpé en morceaux, je suppose qu'on l'a quand même rassemblé les morceaux pour le mettre dans une caisse, Jean.
8 morceaux, exactement.
8 morceaux.
8 morceaux. Je ne voudrais pas attenter à la sensibilité.
Il y a peut-être parmi nos auditeurs des âmes sensibles.
Voilà.
Donc baissez le volume sonore. On vous donne simplement un petit extrait de description du corps.
Je prends une description qui est faite par un journal de l'époque, mais un tout petit morceau, car il y en avait toute une colonne.
Fais attention aussi.
Les deux jambes sont entièrement sectionnées à hauteur de l'aine. Les os de la cuisse semblent avoir été coupés assez nettement, comme avec une hache ou une scie, et ils ressortent des chairs. Le feu a laissé des traces un peu partout, le pied de la jambe gauche est tout noirci, et la flamme a léché également le mollet et est montée jusqu'au genou. Sur le genou de la jambe gauche, il y a des traces de sang, etc. Bon, je ne vous parle pas de la tête qui a été détachée du tronc. Le légiste comptera 8 morceaux.
D'accord. Alors tout ça a été mis
dans un cercueil.
Et on arrive aux obsèques.
Voilà. Donc.
Alors, les obsèques de Méhrier.
Ça avait dû attirer pas mal de monde, et le pauvre Méhrier, la foule avait pris fête et cause pour lui.
Eh bien entendu.
C'était lui la victime.
Et donc, cet enterrement se déroule le 29 décembre 1902.
Voilà.
Avec une foule, comme tu viens de dire, énorme, qui envahit la place du marché, aux abords de la maison, où Antoine avait été si cruellement égorgé.
Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, contrairement à l'époque actuelle, un enterrement se faisait non pas en cachette et à la va-vite, dans des véhicules automobiles qui rejoignent le cimetière ou l'église directement. Là, tout enterrement se faisait en suivant les grandes rues, ainsi de la place du marché, le cortège descendait la rue du marché, prenait la rue nationale, aujourd'hui rue Jean Jaurès, et remontait par la rue de l'Éternité jusqu'au cimetière.
Et là, enterrement important, 1000 personnes signalées au cet enterrement.
Voilà.
Le deuil est conduit par Jules et Pierre, Méhrier.
Oui, les frères.
Les frères du défunt. Mmh. Et puis un gamin.
Eh oui, le côté sensible.
Un gamin de 8 ans. Hein.
Voilà, c'était le dernier. Je crois que le Méhrier, qui était séparé ou veuf, je crois qu'il était veuf, avait 5 enfants.
Et le cortège, donc, va rejoindre le cimetière.
Alors,
mais qui était la Sauzéon quand même dans cette histoire? On en a parlé, mais un peu, pas beaucoup. Allons-y.
C'est un personnage qui était au centre de l'affaire, bien sûr, et un peu étrange parce que assez mystérieuse. Tout d'abord, c'était une personne au physique ingrat. Petite femme, d'ailleurs, qui ne dépassait pas 1m45, le teint jaunâtre. Les cheveux grisonnants tirés à l'arrière et terminés par un chignon à l'arrière du crâne, et toujours larmoyante d'après les journalistes, tantôt larmoyante, tantôt vive et acerbe. Toujours est-il, c'est que cette femme était née dans l'Aube, son nom de jeune fille était Julie-Augustine Gaucher. Elle était née le 4 mars 1856 à Bligny, dans l'Aube. Et elle s'était mariée une première fois.
Première fois. Alors, allons-y, c'est parti.
En 1884, avec un dénommé Auguste Fonbaron. Fonbaron, on sait peu de choses, on sait qu'il était verrier. J'ai retrouvé sa trace, et donc leur trace du couple, dans l'Allier, à Souvigny exactement. Et là, dans cette commune de l'Allier, ils ont 2 enfants. 2 filles, l'une née en 1889, qui mourra dans les jours qui suivent, et une seconde en 1890, qui va mourir, tiens-toi bien, et c'est là où ça commence à être étrange, c'est que la deuxième fille va décéder une semaine après son père. Hein? Donc tout ça se passe en 1887,
oui.
Le 14 novembre. Bon.
Mystérieusement, tu dis décès du père.
Décès du père, bon, il n'était pas
vieux. Et
les
filles.
Donc la Sauzéon, disons, à l'époque ce n'est pas encore la Sauzéon, on l'appelle la veuve Fonbaron, se retrouve à la Mulatière, puis de la Mulatière, allez donc savoir pourquoi, on la retrouve à
Saint-Mauricio-d'Arguer.
Eh ben oui, mais c'est faux.
Alors.
Eh oui, c'est faux. C'est une des erreurs, une des nombreuses erreurs que les journalistes ont commis, c'est que, bien sûr, quand j'ai vu le nom de cette commune, Saint-Maurice-sur-Darroix, je suis tout de suite allé sur l'état civil de cette commune à la date indiquée,
Et tu me disais ne rien avoir trouvé.
Ne rien avoir trouvé.
De ce décès.
Alors j'ai cherché, j'ai continué et j'ai eu la chance de tomber sur ce mariage de la veuve Fonbaron avec un dénommé Jean-Louis Sauzéon,
non pas. Qui était veuf, hein.
Qui était veuf, lui aussi, dans la commune, dans la petite commune de Châteauneuf.
Ah,
Châteauneuf, voilà. c'est pas loin de Rive-de-Gier.
Oui, hein. Oui.
Mais c'était pas à Saint-Maurice-sur-d'Arroire, et pour cause, on n'y trouve pas. Donc, il se marie, là, je crois que c'est le 19 mai 1894.
Tout à fait.
Et il semble pas qu'il y ait eu d'enfants. D'ailleurs, à part l'acte de mariage que j'ai retrouvé à Châteauneuf, il n'y a plus de traces du couple, ni dans les décès, ni dans les naissances. Il faut dire que le veuf, que le Jean-Louis Sauzéon est lui-même veuf, et qu'au moment de son mariage avec la veuve Fonbaron, il a déjà 53 ou 54 ans. Donc, c'est pas l'époque, c'est pas l'âge où on commence à faire, à fonder une famille. Donc, il n'y a pas d'enfant. Mais, bizarrement, sans avoir trouvé trace. Alors, j'ai vu dans un journal où on parlait, lors du procès, de la veuve Sauzéon qui, dont le premier mari était mort et dont le deuxième était fou. Alors, était fou, Sauzéon était fou. J'ai dit, tiens, mais où c'est qu'il a pioché cette... Je n'ai rien trouvé concernant la folie de ce Jean-Louis Sauzéon. J'ai cherché sur Lyon, au cas où il aurait été interné au Vinatier ou dans une maison. Rien. J'ai cherché au Puy. Mordon est également une maison où l'on enfermait les gens atteints de folie. Rien. Pas de Sauzéon. Pas donc, de Sauzéon dans les décès à Châteauneuf.
Mystérieusement, on ne sait pas de quoi il est mort et on ne retrouve pas
on
sa sait, trace.
On ne sait pas, ni quand, ni où il est mort.
Et c'était le deuxième mari.
Et on va l'appeler bizarrement veuve Sauzéon. Julie, gaucher de son nom de jeune fille, mais à aucun moment on ne fera allusion dans le procès, on ne fera allusion à son mari, à son veuf.
D'accord.
Alors, ça fait donc, elle a eu deux maris, elle était entre-temps, elle avait une liaison hors mariage avec un dénommé. La presse parle d'un dénommé P. P, c'est... On ne sait pas, on n'a pas voulu le dire, parce que, soi-disant, ce P en question était un entrepreneur de Châteauneuf.
Donc un notable du coin.
Un notable du coin, donc on ne veut pas trop en parler, surtout on ne veut pas donner le nom, parce qu'il a une femme et il a de la famille. Et puis, donc, arrive Méallier, ça fait donc le quatrième, hein, si on tient compte de ce P anonyme. Et puis, ce Méallier, on vient de voir ce qui lui est arrivé. Et on va s'apercevoir qu'à peine avait-il disparu, ce Méallier, qu'il y en a un cinquième qui se présente.
Donc, il y a quand même l'enquête qui va être lancée.
Mais l'enquête va être lancée. Bon, alors...
Alors, évidemment, après ce que tu viens de dire, tout accusait la Sauzéon.
Ah oui, 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 oui.
Des témoins l'avaient vu acheter 2 litres de pétrole dans des commerces voisins. Certes, les murs de la chambre et de la cave portaient de nombreuses traces de sang. Traces que la veuve attribua au découpage d'une tête de mouton, puis à une hémorragie.
Elle a réponse à tout.
Le découpage du corps en 17 morceaux.
En réalité, le journaliste a forcé.
Et là aussi, il est bon de relever les erreurs.
Voilà.
Tu disais 8 morceaux, voilà. Et là, le journaliste, à l'époque, disait 17.
Alors, on ne compte pas. Hein.
Posait un problème. Ce travail demandait des forces importantes que la femme n'avait pas.
Oui.
Mais... Au fur et à mesure que se poursuivait l'interrogatoire, la meurtrière échafaudait une histoire étrange, peu crédible, qui achevait de la faire suspecter.
Oui, enfin, qui achevait de la faire suspecter, mais qui en même temps mettait un doute dans l'esprit des jurés. Alors, elle ne cessait de répéter qu'elle croyait que son amant, Méallier, voulait partir en Afrique, en Algérie en réalité, pour échapper à des ennemis, et que ceux-ci avait dû le prendre, l'égorger et découper son corps.
Et ils avaient ramené tout ça à place du marché.
Et bien sûr, et pour la faire accuser, elle, pour, ce, pour se trouver un alibi.
Oui, mais alors, attends, qui étaient ses ennemis?
Eh ben voilà, qui étaient ses ennemis. Alors, la Sauzéon raconte cette étrange histoire. Une nuit, à 2h du matin, Antoine Méallier était rentré à la maison en compagnie de deux hommes, avec lesquels il eut une discussion au cours de laquelle il leur réclama 2500 francs.
C'était pas rien, là.
C'est la Sauzéon qui parle.
Grosse somme pour l'époque.
Ah oui, oui. Les menaçant, en cas de refus, de les dénoncer à la police pour l'assassinat d'un vieux.
Anthony, oui, c'est vrai.
Oui. Dont la Sauzéon ne put entendre ni le nom, ni le domicile. Alors, les compagnons repartirent quelques instants plus tard, promettant à Méallier, on te fera la peau si tu parles, hein.
Et oui, et toujours, donc, suivant les déclarations de la suspecte, Méallier lui aurait alors raconté l'histoire.
Voilà, une histoire qui peut paraître rocambolesque, mais...
Qui a existé.
Qui a existé.
Alors,
vas-y.
Allons-y. Un soir, avec quatre amis, ils s'étaient réunis à vélo, à vélo à Rive-de-Gier, près du bureau d'octroi du père Binachon. Père Binachon, écoutez bien. Ils l'attaquèrent, lui portant un coup de rasoir à la gorge. Ils fouillèrent ensuite la maison, emportant argent et bijoux. Le coup était fait, ils rentrèrent à Firminy.
Alors, quelques jours plus tard, les complices de Méallier, inquiets des menaces qu'il avait proférées, vinrent l'exécuter. Enfin, du moins, c'est la veuve Sauzéon qui l'interprète ainsi. C'est du moins ce qu'elle racontait. La croit-on, ça c'est autre chose. Parmi les complices de ce meurtre, elle va même donner des noms. Elle signalait la présence de Bonneville.
Ah oui, l'anarchiste.
Oui, le...
Péraco,
surnommé Péraco, mais pas de chance, Péraco restait introuvable. Alors, il y avait un journal qui s'appelait à l'époque Le Radical.
Mais la presse s'en mêle.
Voilà, oh ben la presse a été très présente.
Ah oui, ils ont assuré là.
Ouais. Alors, ce journal, Le Radical, évoquait une piste différente. Le fait d'avoir été trois fois veuve, enfin... deux fois veuve officiellement, plus une troisième fois l'histoire de Méallier, mais le fait d'avoir été trois fois veuve permettait d'imaginer qu'on avait peut-être affaire à une tueuse en série.
Ah, ben voilà autre chose.
Eh oui, la veuve Sauzéon serait tombée amoureuse d'un camarade de Méallier.
Tiens,
alors,
tiens.
Tiens, comme ce dernier le gênait, elle l'aurait assommé, aurait découpé le cadavre, gênant, avant de le faire disparaître. Ce n'était, nous le verrons, au cours du procès, ni tout à fait juste, ni tout à fait faux.
Et c'est bien là le problème dans ce procès.
Et voilà.
Il y a du vrai, il y a du faux qui se mélangent.
Elle avait le don, la Sauzéon, du savoir utiliser les renseignements qu'elle apprenait par la bande, par la presse, pour s'en servir, ce qui fait que elle mêlait à l'inventer, à sa création, à sa propre création, elle mélangeait la vérité.
Eh oui.
Difficile de démêler le vrai du faux dans ces cas-là.
Alors, le parquet, évidemment, se devait d'ouvrir une enquête. Révélation, on ne sait pas. Affublation, on ne sait pas. Dans le même journal, du 2 décembre 1902, on trouve le fait divers suivant. Un receveur d'octroi âgé de 77 ans, Jean-Marie Binachon, on en a parlé tout à l'heure, a été trouvé assassiné dans son bureau, dans le quartier de La Roche, à Rive-de-Gier. Le vol paraît être le mobile du crime.
Eh oui, alors...
Étrange coïncidence.
Eh oui.
Avec les aveux de la Sauzéon. Oui, mais cet aveu aurait davantage parlé en sa faveur s'il avait été fait plus tôt. On pouvait penser qu'elle avait pris connaissance de ce meurtre dans la presse.
Eh oui.
Et qu'elle y avait vu l'opportunité de s'en servir. Devant l'impossibilité pour le juge d'instruction d'en savoir plus, il fut décidé de la transférer devant la cour d'assises. Les jurés trancheraient.
Alors ce procès s'ouvrit à Saint-Étienne le 4 avril 1903. On remarquera en passant
que... C'est rapide, hein.
C'est très rapide, hein, les jugements... La salle était bien sûr noire de monde, hein, depuis le temps que la presse s'était emparée de l'histoire, et tout le monde était avide de voir cette fameuse femme qui avait tué, ses trois maris, et qui risquait bien sûr sa tête.
Oui, il y avait beaucoup de monde. La troupe, le 38e RI, a même dû intervenir.
Absolument.
Pour canaliser un petit peu tout ce monde, toute voilà. Cette foule, venue de tout le département.
Tout le département. Oh. On dirait, mais alors, comme disait le journaliste, aux questions du juge, elle répondait sur un ton larmoyant, le regard suppliant, en direction des jurés, mais, ajoutait le journaliste, froid et cruel, quand son regard se dirigeait vers la robe rouge du procureur. Là, il faisait un petit peu de mélo.
Hein, oui, alors elle s'écrie « Je suis innocente, messieurs, je suis innocente !»
ne cesse-t-elle de proclamer tout en sanglotant bruyamment. Alors, son système de défense restait toujours le même, et bien sûr, l'avocat en profitait.
Eh bien, son avocat appuyait, bien sûr, Maître Mounier. Hein, voilà. Il appuyait, évidemment. La salle avait déjà jugé avant que le procès ne commence.
Eh oui.
On entendait des murmures, puis des cris hostiles, à tel point que le président menaçait de faire évacuer la salle.
Et puis...
Elle avait réponse à tout, surtout. Ah.
Monsieur le président, par exemple, les esquidos découverts dans la chambre et la cave.
Eh bien, une tête de mouton achetée au marché, et qu'elle avait tranchée à l'aide d'un couperet.
Ah, et alors quand sont arrivés les témoins, eh bien...
Alors, les témoins, allons-y.
Côte, par exemple, le garde champêtre.
Oui, le garde champêtre à Firminy. Alors il dit la chose suivante, au cours de l'enquête, j'ai trouvé une galoche contenant un verre de sang. L'accusé m'a dit que son sang provenait d'une perte...
Une hémorragie. Oui, une hémorragie. Bon, pour les dames, c'était sous-entendu ainsi. Il y avait également un autre témoin, Verdier, qui était témoin de la défense.
Alors lui, il dit avoir vu le 18 décembre 1902 un homme entrer dans la cave de Méallier et acheter un tonneau.
Bizarre. Oui. D'ailleurs, ce même Verdier, j'ai découvert ça récemment, avait retrouvé, après le crime, un seau en fer blanc qu'il avait perdu depuis plusieurs jours, un seau qu'il avait l'habitude de prêter, a-t-il dit, à la Sauzéon, et dont le fond contenait du sang coagulé.
Ah,
ouais. Alors, il y avait, après Verdier, il y a eu Chapy, le garde champêtre de Firminy.
Alors lui, il dit, j'ai trouvé du sang partout, du linge ensanglanté dissimulé dans le four, du fourneau.
Oui, il y en avait partout, il y en avait dans la bouillotte, il y avait du sang sur les murs. François Béallier. Le cousin de la victime.
Alors lui, qui avait joué les entremetteurs,
voilà.
Il avait négocié la prochaine entrée en ménage de la veuve Sauzéon avec son camarade Lédier, puisque cette femme m'avait dit que Méallier partait pour l'Afrique.
Voilà. Alors, d'ailleurs, c'était un... on comprend difficilement, il partait pour l'Afrique. Oui, à l'époque, l'Algérie, c'était un territoire français, donc c'était peut-être une façon de se... d'échapper à la justice.
Oui.
Hein, d'aller jouer les colons au fin fond de l'Afrique. Donc c'était une façon de procéder à l'époque.
Échappatoire.
Échappatoire, voilà. Donc Lédier, ce fameux copain qui voulait se mettre en ménage.
En ménage avec la Sauzéon. Alors il dit, j'ai accompagné la femme Sauzéon chez elle et je n'ai rien vu d'anormal. Elle m'a dit que Méallier la battait souvent, elle m'a offert un verre de vin, je l'ai embrassé, je suppose que ce n'est pas le verre de vin, et je suis parti.
Voilà. Bon, d'ailleurs, ce Lédier va ajouter que le cousin de Méallier, le François Méallier lui aurait dit, tu peux y aller, ça va, le coup est fait. Mais bon, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, le coup est fait Bien évidemment, la Sauzéon, du moins les témoins, en tenant de telles paroles, pouvaient essayer de dédouaner la veuve du crime.
Oui, regarde, il y a aussi Marie Méallier, là, la femme de Bergeron,
oui,
sœur de la victime.
Genre. Eh bien, elle n'a jamais su, la Marie Méallier, si la Sauzéon avait des pertes, comme elle le prétend. Alors, pour vous dire, oui, elle avait parlé, je vous rappelle, d'hémorragie.
D'hémorragie.
Voilà. Elle avait, alors la femme...
La femme Jeannot aussi.
Oui, ben, la femme Jeannot, c'était les commères du quartier. Hein.
Eh bien, bien sûr.
Elle confirme avoir vendu un litre de pétrole à la Sauzéon.
Eh oui, et puis il y a les voisines aussi. Ah. Alors là, mesdames Bouteille et Portafe.
Ah oui. Alors... Ben, la semaine du crime, ont-elles remarqué, l'accusé a toujours tenu ses rideaux fermés. C'est étrange. vous fermez, tu fermes tes volets, toi, toute la journée.
Ouais, oui, c'est oui.
Enfin, voilà.
Alors, et le procureur dans l'histoire
finalement, donc, le procureur demandait la peine capitale, carrément, pour la Sauzéon. Mais l'avocat, lui, demandait au juré de reconnaître son innocence.
Carrément l'innocence.
Carrément, c'était des complices, on vous l'a raconté.
Eh ben oui.
C'était les fameux
anarchistes. Et alors, finalement, le jury dans l'affaire ?
Eh ben, les jurys, eux, ils ont tranché en faveur. Ils ont eu un doute. Ils ont eu un doute. Non pas, ils n'ont pas innocenté, mais ils ont eu un doute. Ils n'ont quand même pas franchi le pas. Du moins, ils ne lui ont pas imposé la peine capitale.
Oui, parce qu'il manquait quand même à la barre quelques complices. Hein, au
il
cas
manquait
où.
Des complices.
Eh bien oui, ça aussi, ça les a perturbés.
Le médecin qui avait fait l'autopsie avait bien précisé que le travail exécuté demandait des forces que l'accusé ne semblait pas avoir.
Eh oui, oui, oui. Voilà. Mais bilan des courses, la veuve Sauzéon, bénéficiant de circonstances atténuantes, était quand même condamné à 15 ans de travaux forcés.
Voilà.
Peine évidemment incompressible.
Peine incompressible. Qu'est-elle devenue après ? On ne sait pas. On ne sait pas dans quel coin de la France elle est partie en prison. Toujours est-il, c'est que ce fait divers sanglant avait marqué les esprits et, comme dans tous les cas semblables à l'époque, des chansonniers, oh, c'était des rimes de vogue, hein, c'était pas de la grande poésie, c'était pas des alexandrins de Racine ou de Corneille, non, c'était de la petite poésie, et des chanteurs de rue, très rapidement, il fallait pas que l'émotion soit retombée.
Voilà, on en arrive à une complainte, quoi.
C'était une complainte que les chanteurs chantaient au coin des rues, rue Gambetta, etc. Et les passants achetaient la feuille, 10 sous, 5 sous, hein, et on en a retrouvé un élément, un morceau que...
Voilà, mais attends, je vais rassurer quand même les auditeurs, il fait très beau actuellement.
Ah ben on ne chante pas.
Donc on ne chantera pas, hein, voilà. Donc voilà. Nous allons vous lire... Un petit peu ça.
Un petit passage.
Un petit passage.
Écoutez, gens de la Loire.
Et de tous les pays.
La véritable histoire.
Du crime de Firminy.
C'était vers 11h du soir.
Que la nommée Sauzéon.
À grands coups de battoir.
Assomma mais allié son compagnon.
Après l'avoir découpé.
En de nombreux tronçons.
Elle les mit dans un panier.
Qu'elle jette de la maison.
Une fois sur le sol.
Elle l'entoure de chiffons.
L'arrose de pétrole.
Mit le feu avec son lampion.
Etc., etc. Voilà donc l'histoire de la veuve Sauzéon, celle qui occupa les veillées et les longues soirées de Firminy en ce début du XXe siècle.
Eh oui, voilà. À bientôt.
À bientôt.
Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Au soleil noir, tourne sur la vallée.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.